Bien, bonsoir à tous. Bonsoir et bonne année à ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. Et puis bonsoir aux internautes qui sont présents via les nouveaux moyens de communication. Alors, on est ici depuis un an, un peu plus d'un an. Il y a donc des cartes blanches qui sont organisées tous les mois. Les mois impairs, c'est moi qui les organise, et les mois pairs, c'est l'Union rationaliste et c'est son secrétaire général, mon ami Daniel Kunt, qui organise les mois pairs. Alors, avant de vous présenter la conférencière de ce soir, eh bien, Madame Marie-Paul Pileni, eh bien, je vais dire un mot, juste une annonce. Donc, la carte blanche du 21 février organisée par l'Union rationaliste, elle sera donnée par un physicien nucléaire, directeur de recherche au CNRS, Harry Bernas, et le titre de sa, c'est « Nucléaire et politique, une histoire particulière », fondée sur un livre qu'il vient de publier aux éditions Le Pommier, qui s'appelle « L'île au bonheur, homme, atome et cécité volontaire ». Oui, tu vois, j'ai tellement mal écrit que j'en suis devenu aveugle. Alors, aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, l'honneur même, de recevoir mon ami Marie-Paul Pileni, professeur émérite de chimie physique à Sorbonne Université, qui a de très nombreux titres. Enfin, j'en retiendrai un. De 2005 à 2010, elle a en fait été la directrice de l'Institut universitaire de France. Elle a occupé de très nombreuses fonctions, non seulement en France et à l'étranger. Alors, elle est titulaire d'un nombre impressionnant de récompenses, toutes méritées. Si je commençais, je pense que le temps de la conférence serait utilisé. Alors, aujourd'hui, elle nous fait le grand honneur, le plaisir de nous parler d'un sujet très important, la nature à différentes échelles, les nanomatériaux et leurs assemblages. Ah oui, j'oubliais de dire que le 1er janvier, Marie-Paul a été élevée à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur, ce qui n'est pas très fréquent. Je vous signale, il y en a à peu près 4 par an. Hein, donc voilà, on a affaire, nous avons aujourd'hui une grande dame. Merci beaucoup Marie-Paul.
Merci mille fois pour cette introduction beaucoup trop de choses pour moi. Merci vraiment Jean de cette invitation, merci à vous de l'invitation aussi parce que je pense que vous travaillez en collaboration et merci aussi à Jean Mouette qui m'a enlevé toute crainte sur la présentation de ce soir. Alors je vais vous parler un peu de quelque chose qui me tient à cœur, qui sont au fond les nanomatériaux, mais en essayant toujours de relier ça à la nature. Et au fond, vous verrez qu'on n'a pas découvert grand-chose. On comprend des choses, mais on n'a pas découvert grand-chose. Alors déjà, regardons qu'est-ce qu'un nanomatériau. Alors vous voyez, dans la lecture, dans ce qu'on connaît de la nature, on a les molécules. On a ensuite l'ADN, donc ça, l'ADN est vraiment dans l'ordre du nanomatériau, du nanomètre. Mais le virus, c'est déjà 100 nanomètres. Le globule rouge, c'est 5000 nanomètres. Et puis, je peux continuer, le cheveu, c'est 100 000, donc 50 000 le globule rouge, 100 000 le cheveu. Donc, vous voyez, on peut parler de nanomètres, mais jusqu'à quand? Est-ce qu'un million de nanomètres, ce sera toujours un nanomètre? Et d'autre part, alors ce que la nature nous a donné et ce que l'homme fait, bien, on sait faire des nanomatériaux de taille de 1 à 10 nanomètres. On a les nanotransistors qui sont aussi dans l'échelle du nanomètre, de 100 nanomètres. Après, on passe au micro-circuit, c'est déjà beaucoup de nanomètres. Hein. Et après, vous avez là l'assemblage de nanomatériaux. Et là, ces assemblages sont grands par rapport aux nanomatériaux. Donc voilà, donc là, en fait, en 2000, Bill Clinton a décidé, sous le conseil d'un de ses conseillers que je connais très bien, d'ouvrir énormément d'argent, de faire vraiment un gros effort financier, tant en physique, en chimie, en biologie, en médecine, sur les nanomatériaux. Et donc, avec cet afflux d'argent, ben, tout le monde a dit, mais moi je fais partie des nanomatériaux. Attends, moi je fais des molécules, donc c'est des nanomatériaux. Je fais de la biologie, je fais des nanomatériaux. Il y a des nanomatériaux dans la biologie. Et au fond, tout le monde est venu manger comme ça un peu. Donc qu'est-ce qu'un nanomatériau ? Ben, c'est pas facile à définir, parce que tout le monde, en plus on a eu tous les dès qu'il y a de l'argent, c'est un problème. Hein. Après, voilà. Et alors, la communauté européenne a essayé de donner une définition. Alors, vous allez voir, elle est saisissante. Cette définition, ce n'est qu'une recommandation, parce qu'ils n'ont pas pu donner une définition réglementaire. Et lisez, si vous lisez cette définition, un nanomatériau, c'est un matériau naturel formé. Oh, j'ai pas mes lunettes. Bon, vous pouvez le lire là. Essayez de le lire, parce que j'arrive pas à le lire. Et vous voyez cette définition qui n'a aucun sens. Hein. Pour moi, la clarté, je ne sais pas où. On a tellement eu envie de mettre tout en même temps qu'ils n'ont rien mis. Alors moi, je vais vous parler que d'une chose. Je vais vous parler des petits matériaux qui sont là, hein, entre 1 et 15 nanomètres. Et puis, je vais parler de leurs assemblages. Donc, au fond, c'est donc des cristaux colloïdaux, de ces assemblages qui sont faits. Donc, les briques individuelles, ce sont des nanomatériaux. Donc, c'est là, je vais essayer de me concentrer à cette partie-là. Alors, on va essayer de voir les nanomatériaux. C'est quand même vieux comme le monde. Et vous voyez ici... Voilà, un oiseau. Les oiseaux, vous les voyez se balader souvent, et en fait, les oiseaux, ils ont dans leur bec, beaucoup d'entre eux, ont dans leur bec une particule de ferrite, de magnémite, de magnétite, enfin, Fe3O4, d'oxyde de fer. Et ces oxydes vont leur permettre de s'orienter. Et ce qui est très étonnant, c'est que si vous regardez tous ces petits oiseaux, ils se placent à des distances identiques, presque identiques, sur des fils électriques. Et pourquoi ça ? Probablement parce que vous avez le nanomatériau, c'est magnétique, on va avoir une interaction magnétique entre eux, mais ce sont des particules chargées, et donc il y aura une répulsion due aux charges, et on va trouver un modus vivendi. Et c'est probablement pour ça que vous avez des distances à peu près constantes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en laboratoire, on peut faire ces matériaux-là. Je vous en montrerai un tout à l'heure. Ce sont les mêmes. Mais en laboratoire, pour obtenir ces matériaux-là, il faut travailler dans des conditions extrêmes, avec des concentrations énormes, des concentrations très alcalines, des milieux très alcalins, et un milieu biologique ne peut pas supporter ces milieux alcalins. Donc, le mécanisme de croissance de ces ferrites, on ne les connaît pas, et ça peut être vraiment un thème important. On ne sait pas comment ces ferrites arrivent à croître. Voilà, donc je vous laisse penser à ça. Mais vous voyez, il n'y a pas que... dans le monde, depuis longtemps, on fait des nanomatériaux. Voilà des peintures Maya qui ont des oxydes métalliques. Vous avez aussi des poteries du XVIe siècle. Vous avez aussi des vitraux. Pourquoi les vitraux vous savez tous que si vous mettez un pull au soleil, le pull va changer de couleur. Les vitraux, non. Pourquoi ? Parce que les vitraux sont faits d'oxyde métallique, principalement, de métaux et d'oxyde métallique. Et la différence de couleur des éléments insérés dans les vitraux, ce sont des nanoparticules qui ont des couleurs différentes. Et ça, ils l'ont fait sans savoir que c'était ça. C'est tout. C'est là la chose importante. Alors, les propriétés physiques des nanomatériaux, on va essayer de voir. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que le nanomatériau, ses propriétés, ne sont pas celles des atomes, ne sont pas celles de l'état massif. Elles sont propres aux nanomatériaux eux-mêmes et elles sont propres à la taille du nanomatériau. Et ça, c'est ça la grande chose qui a été faite depuis 20 ans. C'est qu'on a pu contrôler la taille des matériaux. Et donc, on sait identifier. Et d'autre part, ce qui a été fait depuis plus de 20 ans maintenant, c'est qu'on a développé énormément d'outils pour étudier ces matériaux. La microscopie électronique, on est arrivé à identifier, à avoir les atomes. Vous avez toutes ces microscopies de pointe qui ont ouvert un champ fantastique à la recherche, avec le risque d'avoir beaucoup d'artefacts. Dans les microscopies de pointe, il y a un risque qui est là. Donc, les nanomatériaux, les miens, ceux dont je vous parle aujourd'hui, ils sont apparemment sphériques, mais pas tout à fait, parce que ce sont des cristaux. Et un cristal, il a des facettes. Et selon le type de matériau, vous allez trouver des facettes différentes. Et vous voyez ici, vous avez le décaèdre, qui est le matériau le plus exotique, en quelque sorte, de par sa forme. Alors, vous savez que les propriétés physiques dépendent des atomes de surface. Or, quand on regarde le nombre d'atomes de surface par rapport au nombre d'atomes total, vous voyez une décroissance considérable du nombre d'atomes en surface jusqu'à atteindre à peu près 15 nanomètres. Et donc, au fond, ceci explique pourquoi, quand on augmente beaucoup la taille, on va retrouver les propriétés des matériaux massifs. Et tout à l'heure, je vous disais, les matériaux les propriétés du matériau sont propres à la taille, et oui, vous voyez, elles vont être propres à la taille. Et là, vous voyez, comme exemple, je vous ai pris la température de fusion de l'or, et vous voyez qu'à nouveau, vers 8-10 nanomètres, on atteint le palier. Alors, de la même façon, les semi-conducteurs, donc un semi-conducteur, c'est un élément, c'est un matériau qui a une bande de conduction, où vous avez une bande de valence où vous avez tous les électrons et la bande de conduction où les électrons peuvent aller se balader. Et donc vous avez un gap d'énergie, ça c'est le gap que tous les semi-conducteurs ont à l'état massif. Si vous diminuez la taille de ces semi-conducteurs, vous allez changer la hauteur du gap. C'est-à-dire que vous allez avoir un déplacement vers les courtes longueurs d'onde. Mais vous voyez ici, les gaps pour toute une série de semi-conducteurs. Vous voyez bien que les effets sont principalement entre 1 et 10 nanomètres. C'est pour ça que Bill Clinton voulait absolument, enfin ses conseillers, voulait absolument développer cette partie-là. Et donc ça se traduit par quand vous dispersez ces semi-conducteurs de taille bien calibrée, ben vous avez différentes couleurs potentielles. Et il y a quelque chose de tout à fait remarquable dans ces semi-conducteurs, c'est qu'ici vous avez des fluorescences qui sont extrêmement fines et donc facilement détectables. Et il y a eu un grand espoir que, vous savez, les biologistes utilisent des molécules fluorescentes comme traceurs. Mais ces molécules, en général, elles ont des spectres d'émission qui sont assez larges, pas très bien définis. Et il y a eu un gros espoir que ces systèmes-là puissent remplacer les molécules biologiques. On verra tout à l'heure, à cause de la toxicité, que ce n'est pas encore à la mode. Alors, vous voyez, on a vu des éléments sphériques. Si vous changez, si vous avez des éléments un peu, là, moi, j'appelle ça mon nanodisque, des éléments un peu de forme différente, vous allez déplacer un peu les propriétés de ces éléments. Et vous voyez ici, vous allez, quand vous contrôlez la taille, vous allez contrôler aussi la couleur de la solution qui contiendra ces éléments en dispersion. Alors, quand vous excitez, quand vous envoyez de la lumière sur un échantillon, et notamment sur un nanomatériau, c'est ce qui m'intéresse, vous allez avoir une absorption de la lumière, et ensuite, vous allez avoir un phénomène dynamique de relaxation. Et donc, vous avez tout un processus de relaxation, électron-électron, électron-phonon, et à un moment donné, à partir de 10 picosecondes, on a une relaxation vis-à-vis de l'environnement. Et là, en fait, lorsque vous avez votre nanomatériau, donc vous avez vos atomes, hein, et vos atomes se mettent à vibrer en cohérence à l'intérieur du nanomatériau. Et donc, en vibrant, il dégage son énergie à l'environnement. C'est un phénomène de vibration, de cohérence des nanomatériaux. Et là, vous avez le cliché qui va... Et ça va être l'élément où on va avoir le plus d'applications possibles, le plus grand nombre d'applications potentielles grâce à cet élément-là. Alors, il y a le cas de dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, c'est un semi-conducteur qui a été un des plus utilisés depuis le début du XXe siècle. Il a été utilisé à différentes échelles, il a été utilisé... Alors, c'est un semi-conducteur, et son avantage, c'est qu'il produit beaucoup de dérivés oxygénés qui sont très réactifs et très destructeurs. Et donc... c'est des très bons. Le dioxyde de titane, c'est un super nettoyant. Les vitres de Tokyo d'il y a 20 ans étaient nettoyées avec du dioxyde de titane. On mettait du dioxyde de titane et on laissait la lumière faire son travail. Et les vitres étaient très propres. Voilà. Donc voilà, vous avez du dioxyde de titane qui a pas mal de propriétés. Mais il a un désavantage, c'est que son gap d'énergie entre la bande de conduction et la bande de valence se trouve dans l'ultraviolet. Donc ce sont des systèmes très puissants, et on va voir que c'est un des désavantages, il ne peut pas pénétrer dans les tissus. Alors, les domaines de recherche du dioxyde de titane sont énormes. Au CIV de l'énergie solaire, les cellules qui sont les plus, à mon avis, les plus performantes dans ce domaine, c'est celle de Gretzel. Et quand vous regardez la cellule de Gretzel, il utilise des microparticules de titane, 5 micromètres, est-ce que c'est nanomètres? C'est 5000 nanomètres. Et des échelles et des couches de 200 nanomètres. Alors, il y a eu beaucoup de potentialités dans les cosmétiques, dans la photothérapie et dans la photocatalyse. Alors, la photocatalyse, ça, c'est la partie qui marche le mieux, je crois. Et dans les autres, pour le psoriasis, le cancer, vous verrez que le désavantage, c'est que ça colle à la peau, ça s'accumule dans le foie, dans la rate, dans les poumons, dans les reins. Donc, ce n'est pas très jouissif comme produit à utiliser. Et en plus, la photothérapie ne se fait que dans l'ultraviolet, puisque le gap est important. Et donc, ne pénètre pas. La pénétration de la lumière se fait aux environs de 600-700 nanomètres. On n'est plus dans les mêmes gammes d'énergie. Alors, les applications, parce que tout le monde veut des applications. Alors, il y a une application qui est potentiellement, qui elle risque de bien marcher, mais c'est d'utiliser les nanomatériaux comme masque. Pourquoi ça ne marche pas, ça? Je ne trouve plus ma... Bon, vous voyez un masque, je ne trouve plus ma... Arrêtez le diaporama. Au secours.
Elle est où, la souris?
Je ne sais pas, je ne la trouve plus.
Ah, mince. Ah, j'ai vu quelque chose passer, là. Ah oui, mais... Attends. Si on pourrait... empreinte à côté.
Voilà, super, merci. Donc là, on prend des nanomatériaux et on peut mettre un polymère et de la silice éventuellement là. Et par gravure, vous pouvez arriver à graver le système. Et là, vous voyez, alors voilà les particules allongées dont je vous parlais tout à l'heure, hein, de ferrite. Et vous voyez qu'on peut arriver à une résolution de 3 nanomètres. Mais le problème maintenant qui se pose et qui n'a pas, à ma connaissance, été résolu, c'est que quand vous gravez comme ça, la particule, le nanomatériau, ne tient pas à la gravure. Et donc, il y a encore du travail à faire pour arriver à faire des matériaux qui tiennent à la gravure. Là, on peut graver, mais on a pris ce qui marchait, vous voyez. Donc, c'est potentiellement, je pense, une des choses les plus avancées. Alors, il y a énormément d'applications biomédicales. Donc, on utilise des particules magnétiques, des semi-conducteurs, des nanotubes de carbone, des particules métalliques, des particules cœur-coquilles. Alors, l'idée, dans ce cas-là, les applications les plus en vogue, dirons-nous, sont, on injecte un nanomatériau et on l'utilise pour faire de l'imagerie médicale. Ça semble bien marcher. Et d'autre part, vous vous souvenez, je vous ai dit, lorsqu'on irradie, il y a la relaxation de l'énergie vers l'environnement. Et ça, c'est capable de tuer des cellules, notamment des cellules cancéreuses. Il y a aussi des études qui sont faites sur Il y a pas mal d'études qui sont faites liées à la photothermie. Donc, on envoie de la lumière, les particules vibrent et tuent l'environnement. Mais il y a des problèmes. C'est la toxicité. Alors, il y a l'effet des atomes lourds, qui sont souvent dans les semi-conducteurs. Vous avez certains métaux qui sont toxiques, trop toxiques comme l'argent. Et le problème à nouveau d'accumulation dans le foie, dans les éléments. Alors c'est pour ça qu'il y a eu pas mal d'études de fait, et avec un certain succès, de faire des nanoparticules cœur-coquille avec une coquille qui protège contre ces effets toxiques. Mais pour l'instant, à ma connaissance, ça reste quand même, le problème d'accumulation reste quand même encore un des problèmes majeurs. Alors, on parlait tout à l'heure des oxydes, et bien voilà, des oxydes de fer. Moi, j'ai été contactée il y a pas mal d'années par Procter & Gamble à ce sujet-là. Mais à nouveau, le fait que ces éléments se concentrent dans les zones dangereuses, enfin, les zones vitales de l'être humain. Maintenant, il semble que les sociétés commencent à retirer du marché les ferrites, les nanoparticules de ferrite. Et pour TiO2, pour le dioxyde, c'est pareil, puisqu'il fait des agrégats. Là, vous voyez, je vous ai mis un agrégat de façon... Alors, il y a la nanophotonique qui a beaucoup de... Enfin, je pense qu'il y a des vraies potentialités. Je n'en parlerai pas. C'est l'interaction lumière-matière à des longueurs d'onde... à des dimensions inférieures à la longueur d'onde. Alors, maintenant, on va parler de mes bébés à moi. Ça, c'est ce que j'aime. C'est les assemblages de nanoparticules. Eh bien, vous voyez, on n'a rien inventé. La nature est venue le faire avant nous. Et très récemment, un groupe de Japonais a trouvé dans des météorites des micromatériaux d'oxyde de fer de forme bien déterminée, qui s'assemble très bien. On savait déjà depuis longtemps que l'opale était faite de particules de silice, et les différentes couleurs que vous voyez là, c'est dû au fait que vous avez des assemblages de particules d'une même taille, et à côté vous avez une autre taille, et c'est les différences de taille qui apportent ces différences de couleurs. Et ça, c'est assez fantastique quand même que notre... Voilà. Vous avez aussi les bactéries magnétostatiques. Alors ça, vous pouvez les trouver dans la Seine, hein, il y en a plein. Et vous voyez ici, ces bactéries, elles ont ici des chaînes. Ce sont des chaînes aussi de ferrite. Et ces chaînes de ferrite sont associées, il y a une petite coque, elles sont associées les unes aux autres par une petite coque un tissu biologique que vous pouvez casser avec un peu de tensioactif. Et voilà un assemblage à nouveau naturel. Puis alors vous avez aussi les caméléons de Madagascar et vous voyez que les différentes... c'est fantastique ça, les différentes couleurs du caméléon, elles sont dues à la présence de nanomatériaux dans l'épiderme. Donc quand j'arrive maintenant... Alors là, on revient sur la nanophotonique. Je vous rappelle que les papillons que vous voyez de couleur, la couleur, c'est pas un colorant. Hein. C'est simplement un phénomène de diffraction de la lumière différente due à ces nanostructures qui sont extrêmement puissantes pour faire ce genre de travail et qui sont utiles, qui risquent d'être utiles prochainement, quoi. Alors, l'ordre et le désordre des assemblages. Est-ce que, une question majeure, est-ce que l'ordre joue un rôle? Alors, vous le savez déjà, parce que quand vous prenez un diamant, vous ne prenez pas du charbon. Or, le diamant et le charbon, c'est du carbone. Le diamant est ordonné, les atomes de carbone sont ordonnés, les atomes de charbon ne le sont pas. Le quartz, c'est de la silice ordonnée. Et lorsqu'elle n'est pas ordonnée, elle n'est pas transparente. Et là, vous avez l'opale. Revenons à l'opale. Vous voyez l'opale, c'est la même que tout à l'heure. Enfin, ce n'est pas la même, mais c'est presque, avec son arrangement. Mais quand vous avez ces mêmes particules qui sont désordonnées, eh ben, vous n'avez plus les couleurs, c'est opalescent. Donc l'assemblage, l'ordre doit jouer un rôle dans les propriétés physiques du système. Alors ça nous a amusé, on s'est porté à se dire, bon ben est-ce qu'on est capable d'assembler des particules entre elles? Et là vous voyez, voilà un assemblage de particules dans un réseau hexagonal compact, et d'autres particules qui sont complètement désordonnées, qui se baladent un peu partout. Donc on va essayer de regarder, est-ce que l'ordre va jouer un rôle? Et pour ce faire, alors avant ça, on va essayer de voir ce qu'on peut obtenir comme ordre. Alors, en fait, les nanomatériaux, ils vont s'organiser comme les atomes dans un cristal. Les atomes vont être remplacés par des nanomatériaux et la liaison atomique va être remplacée par les chaînes que je vous ai montrées tout à l'heure, qu'on voit ici. Des petits ressorts. Et donc, on a fabriqué toutes les séries que je vous montre là, cubique face centrée, etc. Cubique, hexagonal compact. Alors, si on regarde la distance dans un cristal atomique, c'est de l'ordre de 10-10 nanomètres, il y a un facteur 10 de distance entre la distance de deux nanomatériaux et deux atomes. Mais ils s'ordonnent de la même façon. Et vous voyez ici, voilà, vous avez même la preuve cristallographique que vous pouvez faire du cubique centré, du cubique face centré, de l'hexagonal compact. Et là, vous avez un très beau monocristal de particules, de nanoparticules. Et maintenant, regardez, on est sur l'échelle de 5 micromètres. On a changé d'échelle. Là, voilà un icosaèdre aussi qui est fait de nanoparticules. Et vous voyez ici, vous voyez bien les particules, on les voit bien. C'est vraiment des particules bien définies. Donc maintenant, on va essayer de regarder la notion d'ordre. On sait qu'on peut faire de l'ordre et du désordre. Et maintenant, on va jouer avec l'ordre et désordre. Est-ce qu'on a des différences? Alors ça, c'est un résultat qui a... voilà. Donc, on a fabriqué des particules, les mêmes particules. On s'est amusé à faire les mêmes particules. Certaines, on les a assemblées de façon désordonnée, les autres de façon ordonnée. Si quelqu'un veut lire les détails, je les donnerai. Mais voilà, c'est les mêmes éléments, tout pareil, même concentration, tout pareil, même quantité. Quand on excite ces deux échantillons, immédiatement, on excite les particules, ça c'était de l'argent, On a ce phénomène de respiration globale des atomes dans le nanocristal. Donc ça, c'est classique, c'est comme dans les nanoparticules seules. Mais ce qu'on voit aussi, regardez ici, ça c'est à l'échelle plus grande, là on est sur 10 picosecondes, là on est sur 100 picosecondes, vous voyez le signal disparaître quand le système est désordonné, et comme le système est ordonné, on voit des oscillations. Eh bien, ces oscillations, alors ça avait été fait avec un groupe de Lyon qui était spécialiste des phénomènes de respiration avec des atomes. On a refait le même modèle avec des nanomatériaux. Et voilà, on a un phénomène de cohérence comme dans le cristal colloïdal, on a ce phénomène de cohérence entre nanomatériaux, le même phénomène qu'entre atomes, alors que les forces ne sont pas les mêmes. Ces systèmes-là, si vous ajoutez un tout petit peu d'éthanol, ils se détruisent. Ajoutez de l'éthanol sur un cristal, il restera tel qu'il est. On retrouve la même propriété. Et je vais essayer de vous convaincre pour une autre propriété, c'est les phénomènes de propagation d'ondes le long d'une... Alors, si vous prenez un substrat métallique et vous faites croître par épitaxie un cristal atomique sur ce substrat métallique, quand vous envoyez de la lumière, vous avez une réflexion. Ici, vous regardez l'évolution de la lumière et vous voyez une vibration, c'est la propagation de l'onde le long de la direction. Ça, c'est pour les atomes. Maintenant, si vous remplacez les atomes par des nanomatériaux, vous avez la même chose. À une échelle différente. Ici, on est sur 10 à 70 picosecondes. Ici, on est à 100, à 300, 400 picosecondes. On a encore changé la notion de dimension, de temps. On change le temps, la dimension, mais le phénomène reste le même. Alors là c'était un peu différent. Là, c'était une erreur. La jeune femme qui faisait ça a mis, au lieu de mettre sa vaisselle dans le four, elle a mis son échantillon. Et là, on a trouvé ça. Et à 45 degrés, hein, pas beaucoup. Et lorsque vous mettez un échantillon, s'il est bien ordonné, vous allez avoir des monocristaux atomiques, et grands, triangulaires. S'il n'est pas bien ordonné, vous allez avoir des petits monocristaux, tout petits. Et donc, on a un peu beaucoup travaillé là-dessus. La croissance se fait de façon épitaxiale. Et vous pouvez contrôler la taille du triangle simplement en contrôlant l'ordre sur longue distance. Alors, des triangles monoatomiques comme ça ont été déjà obtenus sous ultravide, mais on n'obtient qu'une seule taille pour une seule condition. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est une propriété un peu amusante, mais qui est moins pertinente sur les analogies entre atomes et nanoparticules. Mais je trouve que c'est assez sympa de... Alors maintenant, on va voir la croissance cristalline atomique et colloïdale. Alors je vais essayer de vous montrer l'analogie et elle est assez fantastique. La nature a tout fait, on n'a rien fait. C'est ça qui est fantastique. Voilà, vous avez un nanomatériau. Alors voyez, il fait quoi, 7 ou 10 nanomètres. Vous voyez les atomes, c'est un monocristal, cubo-octaèdre, voilà le cubo-octaèdre, 2 nanoparticules. Là, c'est des atomes, ça, c'est des nanoparticules. Et bien, la fluorine, elle fait la même chose. C'est un cristal atomique. De la même façon, vous avez ici un icosaèdre. Eh bien, l'icosaède, vous le retrouvez ici avec des nanoparticules, à nouveau à une autre distance, et vous retrouvez à une autre distance les pyrites. Donc on n'a rien inventé, la croissance elle est la même. Alors ce qu'on a fait aussi, vous vous souvenez de mes nanodisques ? Alors, on a essayé de proposer un mécanisme, et on savait que l'unité, c'est un cubique face centrée, donc l'unité c'était un tétraèdre. Après, elle commence à ranger d'expliquer un tétraèdre par rapport à... Et donc on a supposé que c'était un tétraèdre tronqué, et qu'on avait deux tétraèdres tronqués qui se mettaient l'un sur l'autre, et après une reconstruction de surface. Eh bien, on n'était pas allé voir assez bien. Alors, avec des nanomatériaux, on a notre nanodisque qui n'était pas très, très sphérique hein, quand même. Mais vous voyez là, on voit l'intermédiaire. La phase intermédiaire qu'on avait supposée, elle existe. Elle existe avec... On n'a pas pu, on peut pas la voir à l'échelle atomique parce que les échelles de dimension sont trop faibles, mais elle existe, les voilà, et ça va trop vite à l'échelle atomique. Là, les systèmes de croissance sont plus lents, mais on n'a rien inventé. Regardez, c'est pas beau ça? Vous avez un cristal ici hein, qui est atomique, qui existe dans la nature, et en plus. La cerise sur le gâteau, on a trouvé un tétraèdre tronqué. Donc vous voyez, tout ça, pour moi, il y a une vraie dynamique dans ce système-là qui est assez impressionnante. Là, voilà un tube, un bâton de cuivre. Vous retrouvez le bâton de cuivre avec des nanomatériaux. Mais ce n'est pas que ça. Prenons l'exemple, par exemple, vous prenez un monocristal atomique. Vous lui faites une coupe latérale. Vous allez avoir des marches, ça s'appelle des surfaces vicinales. Alors, je vous donnerai pas, je peux vous dire, mais ça ne va pas vous intéresser. Eh bien, avec des nanomatériaux, on peut obtenir ces surfaces vicinales. Et peut-être même mieux, ces surfaces vicinales sont stables, alors que celles des atomes ne le sont pas. Probablement à nouveau, parce que les échelles de temps sont pas les mêmes, les dimensions ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas fini. On a des quasicristaux. Et bien voilà, les quasicristaux dans la nature, voilà, c'est dans une météorite, on a eu des quasicristaux. Et ça relève quelque chose, une question très importante. Vous savez, il y a 30 ans, j'ai oublié son nom, le nom de ce monsieur, il y a un chercheur qui a trouvé des structures comme ça. Et il a annoncé aux cristallographes que la périodicité de cristallographie n'existait pas. Il y avait des éléments qui étaient différents en cristallographie. Il s'est fait incendier. Il a perdu son poste. Il a été obligé de repartir à zéro. Il a eu le prix Nobel après ça. Mais il serait allé voir la nature... Eh bien, il n'y aurait pas eu de contestation. Hein. Alors là, nous, on a fait ça avec des nanomatériaux. Eh bien, c'est pareil. Nous avons les mêmes structures cristallines. Alors, vous savez, dans les bijoux, ceux qui aiment bien les pierres précieuses, une pierre précieuse, elle n'a de la valeur que s'il n'y a pas de bulles. D'accord ? Les bulles, ce sont des cristaux négatifs. Les voilà. Eh bien, les voilà. Vous les avez avec des nanomatériaux. Vous avez les mêmes structures, des structures bien définies, c'est des cristaux négatifs. Alors, si vous allez au Texas, il y a des belles granges au Texas, et à cause de l'humidité de ces caves, des grottes, à cause de l'humidité de ces cages, il se fait à la surface du matériau inorganique dont j'ai oublié le nom. Et vous voyez, on voit que la surface de l'eau, c'est un substrat magnifique parce que même dans la nature, il est très plat. Il suffit d'aller au labo. Vous mettez vos particules, vos nanomatériaux dans un solvant. Vous mettez un petit cache dessus. Enfin, il faut un peu inventer quand même. Vous voyez, vous avez le même... des très beaux films de nanomatériaux. À nouveau, voilà, c'est ce que je voulais... vous allez dire que je radote, hein, mais c'est comme ça. Voilà, dans la nature, vous avez des matériaux binaires. Et bien, avec des nanomatériaux, vous avez aussi des matériaux binaires de la même structure. Voilà, je vais finir avec les derniers bébés, là. Tout ce que je vous ai montré, ce sont des éléments qui ont été posés, qui sont hydrophobes, qui ont été posés sur des substrats, qui sont dispersés en solution, mais rarement dans l'eau. Et en tous les cas, les assemblages, on ne peut pas les faire dans l'eau parce qu'ils ont tendance à se disperser. Donc, on a eu un problème, c'est que si vous voulez avoir des assemblages qui servent à quelque chose et qui soient utilisables à l'échelle humaine, il nous faut les mettre dans l'eau. Alors, on a vu déjà un assemblage qui est dans l'eau, c'est la bactérie, magnétotactique. Et là, Sébastien Mériot, au CEA en neurosciences, là, a injecté dans une souris du magnétosome. C'est donc juste là, ils ont extrait les particules alignées et ils ont injecté les particules alignées dans le cerveau d'une petite souris. Alors ça, c'était avant, hein, et puis ça, c'est après, une fois que l'injection a eu lieu, vous voyez que le contraste est nettement meilleur. Alors, nous, on a fait un peu autrement. Alors, je ne vous dirai pas les détails, je peux lui donner si vous voulez, mais ce n'est pas très intéressant. On est arrivé à faire des particules, des assemblages. Ça ne marche pas ? Ça ne marche pas. Enfin, ce n'est pas grave, il y avait un film là. Ce sont des assemblages, c'est des coquilles. C'est une coquille de nanoparticules. Autrement, on peut aussi avoir une nanoparticule, un élément sphérique de nanoparticules qui sont en cubique face centrée. Autrement, on peut avoir une demi-couche avec dedans un cristal colloïdal, mais dans une coquille. Ou on peut avoir, alors peut-être je vais essayer, non ? Je pense que c'est votre truc là qui... Bon, enfin bref. Et là, on a un cristal qui est fait de binaire et qui est cubique. Et vous voyez bien, il est cubique, on voit la forme cubique. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris toutes ces bêtes-là et on a envoyé de l'énergie sur ces bêtes-là. Et ce qu'on a vu, c'est que quand vous avez... Alors, comme tout à l'heure, lorsque vous envoyez de la lumière, vous avez le phénomène de respiration. On revient au même problème. Mais maintenant, là, dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est qu'après le phénomène de respiration, à nouveau, on voit une nouvelle absorption ici. En fait, elle est expliquée comme ça. En fait, vous avez dans les particules, chacune des particules va absorber de la lumière. Et l'énergie va être transférée à travers les chaînes. Vous savez, les petites chaînes qu'il y avait autour. L'énergie va être transférée à travers les chaînes. Et ça va concentrer toute l'énergie possible dans cet assemblage. Et là, on fait un vrai nanoréacteur, radiateur. Et si on compare avec une particule de même taille, l'énergie transférée est beaucoup plus faible. Donc, maintenant, on a un nanoradiateur, donc on va pouvoir chauffer. Ce radiateur, il est soluble dans l'eau, donc il peut aller dans des cellules. Et donc, on a essayé de voir qu'est-ce que ça donnait dans des cellules. Ben, vous voyez, là, on a comparé des particules isolées et des particules assemblées. Et vous voyez que l'assemblage, vous avez énormément de particules, vous gardez l'assemblage dans les cellules cancéreuses et... Alors qu'ici, vous n'avez que très peu de particules et elles sont dispersées. Et quand vous les irradiez, ben vous voyez que la mort cellulaire, c'est les taches roses, la mort cellulaire est beaucoup plus importante quand c'est assemblé que quand ce n'est pas assemblé. Et alors la cerise sur le gâteau, c'est ça. Vous prenez un tendon de veau, vous déposez sur le tendon de veau la coquille en question, Vous irradiez et vous avez troué votre temps dans de veau. Et ça, c'est très amusant. Voilà. Donc, en conclusion, le terme nanomatériaux, ben je vous laisse la définition, hein, parce que moi, je ne la connais pas. Alors, les nanomatériaux se forment dans les cerveaux des oiseaux et on ne connaît pas le mode de synthèse de ces nanomatériaux. Et voilà quelque chose qui serait très intéressant à voir. Ils existent dans la nature. Hein. Certains cristaux utilisés par nos ancêtres, nos ancêtres ne connaissaient pas les propriétés, mais ils les utilisaient. Alors, cette dernière décennie, c'est vraiment ces deux dernières décennies, ça a été la fête à l'équipement. Maintenant, on dispose d'un équipement fantastique pour vraiment bien appréhender les choses et aussi au contrôle des processus chimiques qui permettent d'avoir des éléments bien caractérisés. Maintenant, on commence à avoir à peu près une vue d'ensemble sur les propriétés des nanomatériaux. Au-delà de 100 nanomètres, on retrouve celles des matériaux massifs, sauf quand on assemble une brique de 10 nanomètres, de quelques nanomètres, à l'échelle micro-nanométrique. Alors, qu'est-ce que je voulais dire là ? Oui, ben les évolutions technologiques, la réduction, je vous l'ai dit ça. En ce qui concerne les assemblages, donc la nature a bien fait les choses avant nous. Hein. On a une superbe analogie avec du point de vue de la croissance cristalline, il semble que l'analogie soit très claire. Du point de vue d'autres phénomènes physiques, c'est quand même à l'échelle, c'est quelques exemples, hein. Il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à voir si ce système est généralisable ou pas. Et il y a sûrement énormément de découvertes à faire dans ce domaine-là. Alors, si vous avez remarqué, j'ai essayé d'insister, à chaque fois, on change d'échelle. Quand on passe dans les assemblages, on change d'échelle. Tous les systèmes, dans le temps, de dimension, on change d'échelle. Et ça, ça facilite l'observation. Alors, ces assemblages dans l'eau se comportent comme des nanoréacteurs et c'est très récent, hein, c'est des résultats très récents et on peut espérer que l'énergie solaire va s'intéresser à ça et le biomédical aussi. Et comme ces assemblages se forment dans les cellules, toutes les propriétés. On va avoir les propriétés de l'assemblage plus les propriétés du nanomatériau tout seul. Donc, on va cumuler la quantité de propriétés. Donc, en conclusion, au cours de ces deux décennies, la recherche dans le domaine des nanomatériaux dispersés ou isolés a considérablement progressé. À ce jour, nous avons une bonne connaissance assez précise des propriétés spécifiques des nanomatériaux. En ce qui concerne l'auto-assemblage, les propriétés sont propres. Mais la recherche dans le domaine des auto-assemblages est vraiment à l'âge de pierre. Et on attend nos jeunes pour travailler là-dessus. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, il y a des vilains qui sont arrivés en retard, qui m'ont obligé à sortir pendant un moment.
Mais c'est pas grave.
Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça.
Non, notre décision, c'était fermé à 20h.
Ah, voilà. Alors, non, c'est simple. C'est une petite
boutade.
Vous
n'avez rien perdu, vous inquiétez pas.
Ah, mais non, mais si, ils ont tout perdu. Alors, justement, ils vont peut-être poser la première question.
Les pauvres, vous voulez.
Non.
Tu veux les assassiner.
Oui, vas-y, Fabien.
Plus fort.
Lentement et distinctement. Attends, t'en as un autre.
Oui, alors juste une petite question. Qu'entendez-vous au juste par, lorsque vous évoquiez l'ignorance du processus de synthèse des nanomatériaux ? Merci.
Ben, quand vous avez un oiseau qui naît, hein, il n'est pas fini. Je suppose qu'il doit y avoir quelques germes dans son cerveau. Et après, il faut que ces germes grandissent. Il faut, et le mécanisme de croissance du matériau, on ne sait pas. On sait pas.
C'est un mystère.
C'est un mystère, on ne sait pas. Il faut que vous vous mettiez au boulot pour savoir. Mais j'avais fait un pari avec un théoricien pour essayer de voir, mais on n'est pas arrivé.
Je ne suis pas physicien du tout. Non.
Dommage.
Plus. mais on parle beaucoup d'échelles, et donc c'est des échelles qui sont très petites. Et je me demandais si on arrivait à des échelles où les lois de la physique quantique s'appliqueraient, ou on a encore des échelles qui sont supérieures.
Là, c'est quand même plus grand. Je pense que les lois quantiques, ça va être 0,1 nanomètre. Non, c'est à l'échelle du cluster. Il y a eu énormément en France d'études sur le cluster. Et là, on est dans les zones quantiques. On a dépassé le quantique, là. Au-delà d'un nanomètre, c'est fini.
C'est pour que les internautes entendent.
Merci pour cet exposé. En ce moment, on parle beaucoup de la difficulté, en tout cas dans l'industrie, à fabriquer les semi-conducteurs à 2 ou 3 nanomètres. On parle de Taïwan, des Américains qui courent après ça, peut-être des Chinois qui l'ont fait. Et c'est pas facile quand on n'est pas du tout spécialiste, ce qui est mon cas. Pourquoi c'est si difficile de passer de 10 nanomètres, en gros, à 2 ou 3 nanomètres? Est-ce que les choses que vous nous avez expliquées peuvent entrer en ligne de compte?
Vous voyez, ce que j'ai compris du problème de Taïwan, c'est qu'ils font des puces et les connexions doivent être de l'ordre du nanomètre. Et c'est ça qui est difficile à faire, parce que la manipulation, elle ne se fait pas facilement. Et c'est là où c'est extrêmement difficile à faire. Et je crois qu'il y a... Moi, quand je vous parle c'est pas difficile de faire un nanomatériau de 2 nanomètres. Ça, maintenant, on sait faire. Mais ce nanomatériau, il va être dispersé, il va être isolé. Si on a de la chance, on fera peut-être même une poudre, mais ça, il faut vraiment avoir de la chance. Mais vous pouvez l'avoir. Mais pour qu'il se place exactement juste à cette jonction-là, parce qu'ils ont besoin d'être là, c'est ça la difficulté. C'est là qu'est la difficulté première.
C'est le montage, quoi.
C'est le montage. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans un musée à Séoul, ils m'ont montré des photos de microscopie électronique d'une petite statuette. Eh bien, ils faisaient des contacts de l'ordre de 10 nanomètres.
Moi, je vais poser une petite question. En pharmacologie, où en est-on de l'utilisation des nanomatériaux
Le problème, c'est la toxicité et l'accumulation c'est l'accumulation dans les reins, le foie, la rate, etc. C'est ça le problème. Alors, pour l'instant, moi, je croyais que les ferrites, justement, ce n'était pas un vrai problème. Mais apparemment, ça reste quand même un problème, puisque vous voyez que les gens de chez... toutes les cosmétiques commencent à arrêter de...
Alors, lié à ça, il y a une question d'un internaute qui dit « Peut-il y avoir du dioxyde de titane dans le dentifrice et est-ce dangereux ?»
Oh ben, je ne suis pas médecin, moi. Hein. dangereux, vous le crachez, le dentifrice, donc ça ne doit pas être... Mais quoi que le dioxyde de titane, il s'accroche à l'eau, il fait des agrégats dans l'eau. Donc, si vous regardez ici, il fait des agrégats dans l'eau et donc... Il est où, ça? Et moi, je ne me laverai pas les dents avec. Hein, mais... S'il veut, il peut. Hein,
mais... Une autre question. Il y a une autre... Je peux ?
Ouais, bien sûr.
Il y a une autre question des internautes, là. Alors, en recherche aéronautique, on entend régulièrement... Astronautique, pardon. On entend régulièrement parler de nanotubes de carbone.
Ouais.
Alors, la question, c'est, existe-t-il à l'état naturel ? Est-ce que des assemblages sont possibles ? Et y a-t-il des applications ?
Alors, de ce que je connais, mais je ne suis pas spécialiste des nanotubes. Hein. Mais les nanotubes de carbone... C'est assez extraordinaire parce que ce sont des éléments très flexibles, très conducteurs. Ce que je sais, c'est que je n'en ai jamais vu dans la nature, mais peut-être il y en a, il faut peut-être les chercher, hein, parce que maintenant il faut faire attention, on ne peut pas dire jamais. Hein. Mais l'assemblage, à ma connaissance, je n'en ai pas jamais vu, mais par contre... Quand vous mettez une flopée de nanotubes entre eux, les contacts se font entre nanotubes. Il y a un contact électrique qui se fait entre nanotubes. C'est assez magnifique, ça. Il suffit de les mettre tous ensemble, là, et vous avez le contact qui se fait. C'est assez fabuleux.
En astrophysique, voilà. On a trouvé des fulrènes. Vous savez, ce sont ces grands assemblages de carbone qui ont des formes qui peuvent se... Est-ce qu'on les considère comme des nanotubes ?
Ah non,
sont non.
Les nanotubes, c'est vraiment des tubes à deux... Enfin non, c'est... Non, non.
D'accord.
Non.
Et est-ce qu'il y a une application possible de graphène ? C'est une autre
question. De graphène ?
Ouais.
Oh, mais moi, je ne sais pas. Le graphène, c'est pas moi. Hein.
D'accord.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la...
Là, j'en ai une.
Comment ?
J'en avais une pour moi.
Mais c'est, voilà, c'est toi, ça c'est fait. Ça.
Ouais. Merci. Ma question, c'est la suivante. Vous
avez... Non, mais on l'a, je l'ai donné déjà.
Non. Ça, c'était l'internaute. Moi, j'avais une question. J'ai noté. Vous avez expliqué que les propriétés des nanotubes sont différentes de celles de la matière massive, vous avez appelé comme ça, la matière à grande échelle, et également différentes de celles des atomes. Alors, et en même temps, il semble que ça soit difficile de définir ce qu'est un nanotube. Est-ce que ça ne serait pas justement... une possibilité de définir ce qu'est un nanotube, enfin ce qu'est un nanomatériel, à partir du moment où justement les propriétés commencent à diverger des deux côtés.
Oui, mais c'est...
Ou est-ce que la frontière est tellement floue qu'on n'arrive pas à le faire, c'est ça ?
Là, je voulais attirer l'attention sur le fait que il y a eu déviance d'une certaine façon du terme nanomatériaux. Et qui est très pénalisant pour ceux qui le font. Parce que, à ce moment-là, à un moment donné, on ne sait plus de qui parle de quoi. Ça, c'est pour ça que j'en ai parlé comme ça, dans ces termes-là. Maintenant, je pense que les propriétés, chaque nanomatériau a sa propre propriété. Par exemple, je prends un semi-conducteur. Eh bien, le semi-conducteur, quand il va être assemblé, tout ce que je vous ai montré là sur les assemblages, c'est que des métaux. Pourquoi ? Parce que les métaux, ils ont des interactions à longue distance. Les semi-conducteurs ont des interactions à petite distance. C'est-à-dire que chaque élément est isolé. Alors vous pouvez, avec un semi-conducteur, faire du cubique face centrée, etc. Ça, oui. Mais après, la propriété collective, vous en avez à avoir beaucoup moins parce que vous n'avez pas les... Vous ne voyez pas moins bien les voisins. Dans les assemblages métalliques, vous avez tous les voisins qui vont réagir. Tandis que dans les semi-conducteurs, ben chaque semi-conducteur, il est tout seul, quoi. Il est bien à sa place, mais il est tout seul. Donc c'est difficile d'apporter une définition bien précise.
D'accord.
D'autre part, mais par contre... Vous voyez, moi, ça me désole quand j'entends des gens de qualité hein, qui vous disent « Oh, mais il y a plein d'applications, voyons. Je vais essayer de vous en montrer, j'en ai pas beaucoup. Hein. On galère. Enfin, moi, je viens de sortir un brevet, je ne sais pas si ça va marcher, hein, j'espère. Mais je ne sais pas. C'est des choses qui sont difficiles, très difficiles à évaluer, et chaque système est propre à lui-même. Et lorsque vous posez la question « pourquoi ça ?», ben vous n'avez pas la réponse. Pourquoi tel matériau va de façon sélective sur tel, dans tel endroit et pas là ? Eh bien, on ne sait pas. Donc, il y a tout. Y a, c'est vraiment... ce sont des systèmes assez fabuleux. Hein. C'est... Moi, j'ai eu beaucoup de chance de rentrer là-dedans vite. Hein.
Bien, pardon. Oui, vas-y.
Les exemples que vous avez montrés dans la nature, c'est comme pour toutes les pierres, entre guillemets, ça a été produit sous des très fortes pressions, à des très hautes températures, c'est toujours comme ça.
Ben oui, je suis d'accord avec vous. Mais, et nous, c'est lentement et c'est dans un milieu bien doux hein, par rapport à ce qu'ils ont subi. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et pourquoi vous avez un cubo-octaèdre à l'échelle... Pendant longtemps, les gens qui travaillaient dans les clusters, donc en dessous du nanomètre, disaient les cubo-octaèdres au-delà de 2 nanomètres, ça n'existe plus. C'est pas vrai, ça existe. Je vous l'ai montré. Mais c'est ça qui est assez fabuleux. C'est que vous avez des systèmes qui sont complètement... qui n'ont rien à voir. Quand vous voyez les forces atomiques, c'est des forces extrêmement fortes. Moi, c'est Van der Waals. Vous mettez de l'alcool, c'est fini, ça n'existe plus. Vous voyez ? Et au bout du compte, on arrive au fond à la même chose. Mais moi, je vais vous dire que quand j'ai commencé à écrire ça, je me suis fait taper sur les doigts, hein, parce que ça, c'était pas la mode. Hein.
Monsieur, là-bas.
Alors, vous avez dit que le problème pour la pharmacie, c'était qu'on pouvait avoir des agrégats, enfin des agrégations.
TiO2, de dioxyde de titane.
Oui, qu'on pouvait avoir des agrégations de ces nanoparticules, enfin de ces nanomatériaux plutôt, donc à certains endroits du corps humain. Donc la recherche des nanomatériaux, elle est surtout tournée vers l'assemblage, on va dire, de ces nanomatériaux, mais est-ce qu'il y a aussi une recherche vers le désassemblage pour éviter justement, pallier, on va dire, à ces agrégations parce que vous dites que l'éthanol,
je vais faire déjà une différence entre agrégation et assemblage, parce qu'assemblage, il y a la notion d'ordre.
D'accord.
Agrégation, c'est un système désordonné, donc c'est la première chose. D'autre part, l'oxyde de titane, je n'ai pas vu d'exemple où l'oxyde de titane donne... où il y a eu des assemblages de faits. Peut-être c'est possible, j'en sais rien. Et en plus, les propriétés, lorsque le dioxyde de titane est dans... Le problème du dioxyde de titane, c'est qu'il produit énormément d'éléments oxygénés qui vont détruire tout ce qu'il y a autour. C'est ça le problème majeur. Alors pour faire une cellule solaire, ça ne gêne pas personne. Mais pour se laver les dents, moi, je ne me laverai pas les dents avec. Hein. Vous voyez ? C'est juste ça. Parce que c'est des éléments... Alors, c'est vrai qu'il faut qu'ils aient de la lumière, mais c'est quand même des éléments qui sont un peu... qui commencent à être dangereux, quoi. S'ils s'accrochent à la peau, et si vous avez un rayonnement... Alors, vous avez peu de rayonnement ultraviolet, quand même, dans le spectre solaire, mais vous en avez quand même un tout petit peu. Donc,
Le dioxyde de titane, c'est le seul qui est utilisé en pharmacie ?
Pardon ?
Le dioxyde de titane, c'est le seul nanomatériau utilisé en pharmacie ? Enfin, qu'on essaye d'utiliser...
En médecine ? Non, ça, je ne sais pas.
D'accord.
Je ne sais pas.
Mais justement, il semble bien que... Excuse-moi.
Bonsoir, j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire du dioxyde de titane. Je le retrouve dans tous les compléments alimentaires, par exemple. Même dans le tube de vitamine C, il y a du dioxyde de titane.
Oui, mais si vous voulez... Bon, moi je vous parle du dioxyde de titane en quantité... Si vous l'avez à l'échelle du microgramme, c'est pas forcément, c'est pas ça. Je peux pas dire, je n'ai pas dit qu'il était dangereux pour. Si je me lave avec du dioxyde de titane, j'en mets une paquet, hein. Je me lave avec des grammes. Hein.
Oui, je comprends. Mais quand on prend ce genre de choses à longueur, sur un certain temps,
c'est pas la même chose. Et d'autre part, alors le dioxyde de titane, lui, les reins, le dégagent, ils sont capables d'assimiler via les reins. Mais
c'est quand même extraordinaire, mais c'est un matériel si dangereux qu'on puisse le mettre dans des aliments qu'on consomme.
Tout dépend de la quantité. Ah, si c'est des petites quantités, c'est pas grave. C'est pour ça que c'est très difficile, et c'est là où des fois arrivent les fake news, parce que les gens extrapolent avec peut-être beaucoup de conviction, mais il faut aussi raison garder là-dessus. Si vous voulez, quand vous injectez 10 mg de ferrite ou d'oxyde de titane dans un organisme, on est en droit de savoir où va aller le dioxyde de titane. Mais quand je suis sûre que vous en avez dans votre bière ou dans n'importe quoi.
Oui, il y en a
partout.
Il y a le phénomène de l'accumulation après. Voilà. Dans tout ce qu'on mange, il y a plein de ça. Voilà, mais bon.
Oui, mais à ce moment-là, on ne mange plus, et puis voilà.
Oui.
Merci. On vit quand même, vous avez quand même des gens qui arrivent à vivre jusqu'à 95 ans ou 100 ans, et ils se portent bien quand même. Hein. Donc,
mais je pense qu'il faut élargir la discussion, parce qu'effectivement, pourquoi, c'est la question que je me suis posée, pourquoi il y a eu autant de réticences dans le public, etc., vis-à-vis de ce qu'on a appelé les nanotechnologies. Il y a eu un moment où c'est devenu... La bête noire, c'est...
Parce qu'il y a des gens qui n'y connaissent rien, qui se sont permis d'en parler. Et il y a eu des rapports au Sénat qui se sont permis d'en parler. Moi, il y a 10 ans, j'ai vu un rapport au Sénat, je suis tombée de ma poussette.
Non, je me souviens de pièces et main-d'œuvre à Grenoble, par exemple, qui étaient vendues.
Mais il y a plein de gens qui... Alors, et si vous regardez, pour revenir aux fake news, si vous regardez les fake news... Moi, j'ai regardé en détail certaines déclarations. Ils vous disent, il y a un nanomatériau et c'est ça qui va tuer. Non, c'est une vésicule. Oui, une vésicule, on revient au problème précédent. La vésicule, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage de molécules. Mm-hmm. Mais c'est des molécules qui sont dans l'organisme, partout dans l'organisme. Mais il y a des vésicules qui ont des effets spécifiques, mais c'est pas... C'est parce qu'on a nommé vésicule un nanomatériau qu'on est dans ces conditions-là.
D'accord. Vous avez une question ?
Bonjour. Quels sont les outils techniques qui ont permis de faire avancer la recherche sur les nanotechnologies ? L'outil qui, je ne sais pas moi, quel outil a permis de faire avancer justement cette recherche-là ?
Alors moi, je vais vous dire. En ce qui me concerne, le reste, je ne sais pas trop. Hein. En ce qui me concerne, j'étais à une Gordon conférence. Et j'utilisais des gouttelettes d'eau dans l'huile, et je voulais faire des transferts d'énergie pour l'énergie solaire, mais c'était dans les années 60, 82, 83. Et là, j'entends un type qui travaille, qui est un spécialiste des semi-conducteurs, et le type me dit, et il fait une conférence et il nous explique qu'il est obligé de travailler à très basse température pour contrôler le précipité de CD2+ et S2- pour faire des semi-conducteurs de taille toute petite, qu'il a vraiment des gros problèmes. Et moi, à cette conférence, je me dis, mais moi, dans mes gouttelettes, je peux le faire. Et voilà, commencez par ça. Donc, et après l'assemblage, ça a été pire. C'est qu'on regardait les propriétés physiques de semi-conducteurs avec un collègue allemand qui était, dès qu'il s'agissait de science, qui était insupportable en disant « Les chimistes, vous faites que des trucs pleins d'impuretés, etc. » Un jour, en revenant d'Allemagne, j'ai dit à la jeune femme qui travaillait là-dessus, je lui ai dit « Écoutez, essayez de les habiller pour qu'ils arrêtent ces histoires, ces commentaires désagréables que les chimistes, on est tous des cochons, etc. » Et elle a essayé de les extraire, et là, on est tombé sur l'assemblage. Et là, on avait gagné, on avait la porte ouverte. Alors là, c'est la chance. Est-ce que vous laissez tomber, vous ne regardez pas, vous dites c'est une erreur, ou vous regardez et vous sautez dessus? Ça, c'est votre problème après. Voilà.
Mais je crois que c'est une belle conclusion. Eh bien, merci beaucoup. Merci Marie-Paul.